Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Sylvain Tesson a écrit « J'ai haï la révolution numérique, la fausseté, la technisation, le machinisme hideux, la néophilie, c'est-à-dire l'adoration du nouveau permanent, maladive, et je l'ai détesté avant même que la puce globale ne restaure le monde. » Alors il ajoute que, avec la digitalocratie, quelque chose de plus important que ce qui a été gagné a été perdu. Ce truc, un iPhone, a mis un écran entre le visage et le monde. Fin de l'union de l'œil avec le réel. Quand on a un écran devant soi, c'est qu'on cache quelque chose et qu'on masque le reste. Je n'ai pas d'écran, donc je continue à vivre dans un monde où la vérité m'arrive en pleine face. Sans être remalaxé, reformulé, reprogrammé par un système, cette machine est binaire, comme une arme avec rang de sûreté qu'on ouvre ou ferme. Je n'aime pas le binaire, malheur à moi, je suis nuance, dit Nietzsche, honte à toi, tu es binaire, pourrait-on ajouter. Je m'arrête là. Voilà. Alors, la radio a ceci quand même de bon, c'est que je crois qu'elle n'entre pas dans cette société de la digitalocratie, puisque ce que l'on demande, c'est simplement d'avoir des oreilles, d'écouter, et d'écouter dans son silence intérieur, et c'est ainsi que l'on écoute la poésie. Alors, cette semaine, nous allons avoir une émission particulière. Une émission qui est un peu une émission tournée vers le passé. Vers le passé parce que les poètes qui disparaissent et que nous avons vécu, que nous avons aimé, nous avons vécu avec ces poètes-là, nous les avons aimés, nous les avons beaucoup lus, nous avons souvent parlé d'eux, eh bien, ceux-là, ils sont intemporels. Et le miracle quand même de cette technologie, cette technicisation que vilipende Sylvain Tesson, eh bien quand même le miracle, c'est que heureusement que cette technologie existe, puisqu'elle peut nous restituer des pans du passé. Et ce sont des pans du passé que vous allez entendre cette semaine. Le premier pan, nous allons le dédier à notre ami Thierry Tools, alias Capitaine Slam, avec deux morceaux de Slam. C'est un disque qui s'appelle Slam Doc. Il était très attaché à ce disque, ce CD, avec un premier morceau de Loudavi qu'il aimait beaucoup, et vous verrez, il y a de l'occitan dans ce Slam de Loudavi. Et ensuite, nous écouterons le capitaine Slam dans son poème Capitaine VIP. Alors tout de suite, nous écoutons Loudavi.
Je ne crois plus au complot télévisuel médiatisé, politicien déguisé, autre charlot manipulé, consommateur avisé, obsédé par sa possession, se faisant prisonnier dans sa tendre propriété. Il faut bien, nous dit-on, que tout le monde vende, mais les enfants du profit ne peuvent se défendre et se défoncent à coups d'industriels collent, pendant que certains pour d'autres horizons décollent. C'est ma culture, ouais, bien plus qu'une utopie. Cette histoire, c'est celle qui nous relie. Aujourd'hui oubliée, intégration, assimilation, contradiction d'idées sur le fronton des monuments. Spéciale édicace à Félix Castan. La différence fait reculer, conclusion faut oublier, et la foi dans tout ce merdier, bien c'est déchiré. Mais qu'on se rassure, car le jour du G sera fêté. Il a même trouvé un putain d'associé, une belle gueule, un gros bide, habillé de rouge sang, trimballant dans sa hotte des fusils pour nos enfants. Alors je ferai un état de fait. De cette situation, j'apprendrai ce passé. Me dirai différent, né sous une même nation, instaurée par le peuple soi-disant, où se chante un des chants les plus sanglants du nom de cette grande cité phocéenne. Tout le monde le sait, il faut pas parler la bouche pleine, pleine de haine, négativité, nationalité, nasalité, rapprochée de certains orifices sans oxygène. Et c'est là où le bas blesse, car il y en a qui ont les sinus trop près de l'anus. Alors prends plutôt du 51, ça sent l'anis. Et si t'enlèves 20, t'es pas loin de Toulouse, alors oublie ton blues et prends du blaze. Cal que vous digue, que vous calentenne, mon pays, mes étrangers. Mas cusi vous conta mon punt de vista d'estre reconquista. Alors que m'a pensado ello, et tan ligado, en aquel mutse gestes que fan aquest enganado. Yeu, ai mai di non rasiga e autan de surgos. E poi un pet di storia, lu prese la terra fau de jeu in estranger en so de mus paires. Alarm un fraire, farai pas de revirado, qui tomensi di mabuco ma lengo sem l'artificial. Giù ma finestro, curo che cantarà. Almes che s'agisse da uselun de gabio, empiei, un tes passada che l'onna leggenda, beleu che s'amago, fins al giur, mon fraire, che pugiarà din l'aire la flairo della desbragliado. Cal che bus dighe, che bus calentenne, mon pais mes estranger, ma scusi bus contam un pun de viste d'estre en reconquista.
Voilà, c'était Lou Davy et je me devais quand même de faire écouter ça à Radio Occitanie ou dans l'émission Les Poètes. Nous allons maintenant écouter notre ami regretté, combien regretté, Thierry Tools, capitaine slam, dans son slam capitaine VIP. Parce que...
Capitaine Slam, tu n'es pas de notre galaxie, mais tu as plein d'amis qui font du slam. Ce sont tous de bons slameurs, sans rapprocher ça un peu, qui assurent comme des bêtes.
Viens pas me faire chier, je suis booké, je fais du footing, je suis bling bling, vraiment je suis un VIP, ma vie est folle, je suis un people, je connais texte de la télé, et c'est ce qui fait, bisquer mes ex, je connais Drucker, Poivre d'Arvor, Claudia Schiffer, Alain Chamfort, pote comme cochon, avec Souchon, Coé Fogiel, je les appelle, je tape dans le dos, Jean-Pierre Pernaud, je fais des bécots, Aline Renault, je connais aussi, Florent Pagny, même Johnny, et mon ami, quant à Bruel, j'ai son fond d'elle, mais j'ai pas celui de Fernandel, Monsieur Bob Dylan est mon grand fan, même Madonna est folle de moi, je suis un héros pour Obispo, et j'impressionne Michael Jackson, accompagné par Ange B, je connais Majid et Claude Sicre, David Guetta, jure que par moi, et Barry White dit que je l'épate, je fais de l'effet à Alizé, mais je crois que c'est mort pour Michel Thor, je fais des becs à Céline Dion, mais à Welbeck, j'y fous des nions, pour Pierre Palmade, c'est la collade, et à Garou, je fais des bisous, Philippe Catherine, c'est ma copine, Laurent Ruffier, mon associé, everybody me téléphone, parfois j'avoue que ça m'assomme, je dis à Noah, ne m'appelle pas, et à Guidru, ne m'appelle plus, j'envoie chier, David Douillet, quant à la gaffe, j'y fous des baffes, mais la plus pire, c'est Britney Spears, celle-là j'y dis, fâché chippy, je tronque au masque, je suis dans la place, ma vie est folle, je suis un petit Paul. Dans mon sauna, peignoir Gucci, et pour le bas, slip Armani, comme Clinton, je me la donne, mais pas de cigare, pas besoin de ça, je fume plutôt de la ganja que m'a donné Chantal Goyard. Mon agenda est saturé, je suis booké, overbooké, crois pas que je prime, je suis crevé, mais c'est la vie d'un VIP, je suis comme Eddie, les bons tuyaux, je fais ce qu'il faut, je suis funky, stay on the scene, stay on the scene, stay on the scene.
Un sans-pape n'est rien d'autre qu'un exploité jetable. il bosse, à la merci d'un boss. Se taire, prend pas de place, car s'entasse, rack sa TVA, son loyer à des rats, son ticket à la RATP, et touche jamais d'alloc, se couche dans son paddock, sans faire de blague, sans faire de tag, sans faire de vague. Puis, quand l'a bien servi, sert encore à la grande loterie de la rafle, tous les tickets d'avion sont gagnants, ramasse quelques baffes.
Voilà, vous avez écouté Capitaine Slam, VIP. Maintenant, nous allons poursuivre avec une émission qui est donc dédiée à notre amie Monique Lise Cohen. Monique Lise Cohen, qui a été une poète, écrivain, historienne, essayiste, philosophe. Monique Lise Cohen, qui nous a accompagnés ici à Radio Occitanie, je dirais depuis quasiment le début de notre émission Les Poètes, donc toutes ces années, qui a disparu il y a quelques années pour notre plus grand réservoir. Et nous avons voulu aujourd'hui vous faire revenir en 2011. Monique Lise Cohen avait une émission de radio aussi sur la poésie, sur les arts. Et en 2011, elle m'avait invité. J'avais à cette époque-là, je crois, quelques publications, donc on va parler des publications que j'avais en 2011, mais c'est surtout pour écouter un petit peu donc la voix de Monique Lise Cohen et puis aussi se souvenir de ces années passées. Donc nous allons écouter cette émission de 2011 où j'ai été l'invité de Monique Lise Cohen à Radio Colavive. Alors, il y a un petit problème technique que Claude va essayer de résoudre. Je vous prie de bien vouloir nous excuser, mais il semble que notre lecteur de CD ait un petit souci.
Il faut tourner la page, changer de paysage. Le pied sur une berge, vierge.
Amis de Radio Colavive, bonjour. Monique Lise Cohen à votre compagnie pour une page ouverte. Aujourd'hui, chers amis auditrices, auditeurs, nous avons le plaisir de recevoir un invité sur les ondes de Radio Colavive, notre ami très cher Christian Saint-Paul. Bonjour Christian.
Bonjour Monique Lise.
Alors Christian, tu es déjà souvent venu sur les ondes de Radio Colavive, les auditeurs, les auditrices te connaissent, et tu es poète, et aujourd'hui nous t'invitons pour présenter tes deux derniers recueils de poèmes et l'évocation d'un précédent recueil dont nous allons parler. Alors je dis les titres, hein, et puis si tu veux, tu nous les présentes un petit peu et puis on rentre dans une réflexion sur ce que tu écris. Alors il y a eu, il y a peu de temps, Vous occuperez l'été, aux éditions Carder, un très beau recueil qui est paru en 2009. C'est une belle édition. Hein, voilà.
Toujours en librairie, même à Toulouse.
Toujours en librairie à Toulouse. À la FNAC, à Ombre Blanche, je vous demandais. Donc, alors, je redis, de toute façon, on dira à la fin de l'émission,
avec deux illustrations de Jourda.
Avec deux illustrations de Jourda, en tout cas. D'accord. Maintenant, deux recueils aux éditions Encre Vive. Alors, les éditions Encre Vive sont dirigées par notre ami Michel Cozen, qui est un grand écrivain lui-même, qui s'est consacré à la littérature. C'est une vocation complète. Hein. Il a fait de sa vie l'équivalent de la littérature, et de la littérature l'équivalent de sa vie. Deux recueils. On parlera un petit peu de Michel Cozen. J'ai les ailes de l'aigle blanc et El Barranco de la Sangre, suivi de Landra je ne sais pas comment dire.
Lanjaron.
Lanjaron, voilà, sur l'Andalousie. Alors, Christian, si tu veux bien nous parler un petit peu de ce recueil, et puis oui, nous rentrons dans la...
D'abord sur l'édition elle-même. Hein. J'ai les ailes de l'aigle blanc constitue le 380e numéro d'Encre Vive. C'est-à-dire que Michel Cozem, donc, dirige cette revue depuis maintenant 50 ans. Et ce numéro constitue le 380e la diffusion donc de cette revue, c'est-à-dire qu'elle est destinée au départ aux abonnés. J'ai lu sur, parce qu'il est très discret Michel Cozem sur ses abonnés, mais j'ai lu sur une revue spécialisée là, sur la poésie qu'il aurait 2500 abonnés. Donc ça veut dire que effectivement les 50 ans de travail de Michel Cozem ont payé, et que publié dans le cadre de la revue, dans le cadre surtout de l'abonnement, effectivement est une chose importante. Donc ça, c'était pour les ailes.
Alors on peut dire que Michel Cozem publie tous les poètes connus.
Il n'y a pas un grand nombre de la poésie contemporaine, me semble-t-il, hein, qui n'ait, à un moment donné, été publié par Encre Vive dans les 50 dernières années.
Alors Encre Vive.
On parle beaucoup de Salastétier, par exemple. Bon, mais Salastétier, il y a 3 ou 4 recueils qui ont été publiés à Encre Vive.
Alors, Encre Vive est à Colomiers, donc dans la banlieue de Toulouse. Hein. C'est donc un grand éditeur qui est juste notre... qui est quasiment toulousain, hein, qui est présent dans beaucoup de manifestations et qui publie vraiment des centaines de...
Oui, et sans... Alors, il n'y a pas de diffusion en librairie, c'est-à-dire que ces recueils, ne vous les trouverez pas en librairie. Il va falloir le commander directement aux éditions Encre Vive, 2 Allée des Allobroges, 31-770 à Colomiers. Chaque recueil vaut 6,10 €, et la diffusion est une diffusion qui se fait par abonnement et par correspondance.
Voilà. Le second recueil...
Alors, le second recueil, c'est El Barranco de la Sangre et Lanjaron. C'est dans la collection qu'il a créé, deux collections, Michel Cozem, indépendamment donc de ce qui est publié dans le cadre ordinaire de l'abonnement à la revue. C'est une collection qu'il appelle Encre Blanche et une collection qu'il appelle Lieu. Et dans cette collection Lieu, évidemment, le thème central, c'est que les textes doivent se rapporter et avoir pour objet fondamental, principal, le lieu, un lieu quelconque. Voilà. En ce qui me concerne, donc j'avais déjà publié dans cette collection « À quel art la langue du bouc ?» c'était sur le Pays Basque. « Odiemi Krastibi », c'était sur la Bretagne, le Trégor. Toulouse au Meloramente, c'était sur Toulouse. Et là, avec El Barranco de la Sangre et Lanjaron, je publie sur une région d'Andalousie qui est au pied de la Sierra Nevada, qui est une région montagneuse qu'on appelle également, qui était une région très très pauvre à l'origine, qu'on appelle l'Alpujarra. Voilà.
Alors, peut-être, si tu me permets, je pourrais partir de ce que tu viens de dire pour essayer d'exprimer ce que m'inspire ton écriture.
Je t'en prie.
Voilà. Parce que ton écriture est différente de la mienne. Je me suis toujours demandé comment c'est possible. Et on échange beaucoup sur la poésie ensemble depuis des années. Alors tes poèmes sont souvent inspirés par un paysage, un lieu, donc c'est cette collection dans laquelle tu publies chez Encre Vive, inspirés par un paysage, un lieu, un voyage, une situation, souvent une femme, ici c'était Isabelle qui était ton épouse et votre fille qui sont présentes, et particulièrement dans le recueil Vous occuperez l'été, hein, elles deux sont très très présentes. Et il y a toujours une dédicace à un ami ou un ami, une dédicace. Donc il y a quand même un horizon pacifié, heureux, tranquille, d'amitié, dans laquelle ton écriture se déploie. Et cela se marque particulièrement dans les émissions de radio que tu fais sur Radio Occitanie. Dis un mot sur ton émission.
lancé Les Poètes, c'est tous les jeudis sur 98,3 MHz, mais c'est également diffusé sur un site qui s'appelle lespoètes.fr, hein, sans espace, sans accent.
D'accord. Les Poètes en un seul mot.
Voilà.
Voilà, c'est ça. Alors, bon, on redonnera toutes les coordonnées à la fin de notre émission. Donc, un horizon d'amitié, tranquille, heureux. On se sent bien quand on commence à lire ton texte. Il y a un espace d'accueil. Hein,
alors,
et des sentiers connus, puisque tu nommes des paysages qui sont connus. Et puis, on plonge dans l'inconnu. Mais tu voulais dire quelque chose, Christian?
Oui, le lieu. Tu as parlé du lieu. C'est vrai que le lieu, et c'est pour ça d'ailleurs que là où je me sens le plus à l'aise en définitive comme éditeur, c'est chez Michel Cosem. Parce que j'ai senti avec Michel Cosem la même chose. C'est-à-dire, il y a vraiment une égalité totalement d'aspiration et de sensibilité chez lui, c'est-à-dire cette référence au lieu que j'ai trouvé également chez Gilles Lade, qui est un des auteurs aussi, qui est membre du comité de rédaction d'Encre Vive. Et je me sens très à l'aise avec eux parce qu'on se comprend très bien. Justement parce qu'on a cette référence au lieu, c'est-à-dire le lieu pour nous est le premier déclencheur. C'est-à-dire il n'y a pas de lieu neutre. C'est l'imprégnation du lieu va en définitive contribuer à l'imprégnation totale du texte et du sentiment. Je ne peux pas couper le lieu du reste. Ic et nunc, ça se situe ici, mais donc quel est cet ici et nunc, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire dans quel lieu du temps aussi. Hein. Donc le lieu pour moi c'est quelque chose de vraiment de. Je vois Gilles Lade par exemple, à lui seul le lieu constituerait peut-être la totalité de sa création, de dire le lieu. D'arriver à pénétrer dans le lieu, de dire ce qu'il est et comment il est ressenti et ce qu'il peut signifier. Donc, pour revenir à le barranco de la sangre...
Alors, je veux dire quelque chose, nous sommes aussi en dialogue sur nos deux écritures. Juste une petite parenthèse. Moi, je n'ai pas ça. Par contre, quelque chose qui m'inspirerait, ce serait quelque chose comme le film de Marguerite Duras, Le Camion. Quelque part et n'importe où.
Oui.
Ou alors les banlieues désolées des grandes villes. Je fais autre chose. Écrire à partir d'un lieu. C'est une interrogation quand je te lis. Je ne sens pas un manque en moi, mais ça me permet d'affirmer ce que je fais également.
Oui, mais je crois qu'il y a beaucoup, enfin, c'est une discussion que j'ai aussi avec des amis qui ne sont pas nécessairement poètes, c'est-à-dire le lieu, par exemple, j'ai un ami qui travaille aux États-Unis à mi-temps, etc., et qui souvent dit, ben moi, je suis là, mais c'est par hasard, après tout, je ne sais pas, mais je suis aussi bien de San Francisco que de Toulouse. Bien. Il y a dans les années 60, moi j'étais totalement cosmopolite. C'est-à-dire que le lieu, en réalité, j'avais totalement sous-estimé le lieu, et ce qui m'intéressait, c'est de dire, bon, qu'on soit au Japon, en Belgique, en Angleterre, etc., la préoccupation est la même, et la préoccupation métaphysique est la même. Donc, après tout, qu'est-ce que ça peut changer, puisque ça ne change rien, on amène avec soi sa même préoccupation métaphysique, c'est ce que tu me dis.
Pas tout à fait.
Bon. Et alors, il y a quelqu'un qui m'est rentré dedans d'une façon très violente, mais aussi magnifique, c'est Félix Marcel Castan, qui m'a dit, ce cosmopolitisme, Christian, c'est un cosmopolitisme destructeur, et on ne peut pas te laisser dire et te laisser faire ça. Bon, et puis petit à petit, donc est né d'abord par la sensibilité, l'attachement, j'ai été un peu fragmenté aussi, mais dans la même région, c'est-à-dire je suis né moi en Ariège, je suis très très attaché au village où je suis né, le Mas d'Asile, auquel j'ai une intimité qui est une intimité très profonde, mais très confidentielle. Très très confidentiel. Ensuite, il y a eu Narbonne, c'est-à-dire la Méditerranée, ce côté méditerranéen avec la mer, avec cette âme, le vent, le soleil, qui m'a ancré aussi dans une âme languedocienne très forte. Il y a eu Montauban, où j'ai vécu 5 ans. Là où j'ai retrouvé un petit peu les paysages d'Ariège, les paysages plus verts, etc., mais aussi une mentalité qui était une mentalité parfaitement, on dirait maintenant, occitane, et puis ensuite il y a eu Toulouse. Voilà. Toulouse qui a été un peu, qui a englobé un peu tout ça, et qui me permet de recentrer un petit peu l'ensemble de ces sensations d'appartenance. Donc j'ai un sentiment d'appartenance, qui est un sentiment d'appartenance essentiellement languedocienne, en définitive, et surtout méditerranéen. Bon, donc occitan, mais avant tout méditerranéen. Avant tout méditerranéen. Je voyais, par exemple, tu me parlais en antenne de Serge Peille, j'ai vu que Serge Peille était dans l'anthologie des poètes méditerranéens. Je pense que lui aussi, c'est une sensibilité avant tout méditerranéenne. Bon, qui peut être, lui, d'origine, ses parents, son père est d'origine espagnole, catalane, donc bien sûr, il est encore au plus. Donc il y a cet ancrage dans cette... c'est pas rien d'être, de se dire on est aussi, on appartient à un lieu, c'est-à-dire à son histoire et à sa culture et à sa culture. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir après, lors des voyages, les autres histoires et les autres cultures, et de les confronter. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis allé au Pays Basque, que j'ai publié sur le Pays Basque, ce que j'ai fait, j'ai publié en Bretagne. Alors la Bretagne était pour moi un paysage totalement inverse et inconnu, quoi, de paysages méditerranéens, et en même temps des paysages qui m'ont totalement bouleversé et pour lesquels je me suis senti véritablement et où j'ai compris les auteurs aussi, j'ai compris complètement Armand Robin, enfin je vais jamais, enfin pour moi aussi les paysages sont ramenés aussi à la littérature, c'est-à-dire à ce qu'on en a dit, hein. Je vais en Bretagne et je lis les poètes bretons. C'est absolument indissociable. Je ne peux pas être là sans être dans la pensée. Par exemple, je suis allé voir la ville natale d'Ernest Renan. Bon, mais la pensée d'Ernest Renan est là. Hein. Et le dernier, El Barranco de la Sangre, il y a sur le site lespoètes.fr une rubrique avec événements qui relate tous les événements, toutes les publications qui paraissent. Et que nous signalons, et donc il y a l'événement entre guillemets de la publication de El Barranco de la Sangre, et donc il y a une photo où je suis devant un panneau où il y a écrit Barranco de la Sangre, qui est sur la route entre Grenade vers la route de la Sierra Nevada, donc après Grenade vers une petite ville qu'on appelle Bosque Star, qui est la ville aussi des ancêtres, une partie des ancêtres d'Isabelle. C'est donc un lieu réel. Le titre, c'est un titre d'un lieu réel.
Bon, je voudrais te demander, Christian, si tu veux bien lire un passage.
Oui.
Lire un passage. Pour qu'on entende cette poésie inspirée par le lieu.
Alors, il y a le lieu, mais il y a aussi celui qui peut hanter le lieu, c'est-à-dire, comme je disais, souvent le poète qui l'a chanté, qui l'a connu, etc. Et dans ce lieu-là, bien sûr, là, dans El Barranco de la Sangre, c'est ce que disent les critiques qui ont paru sur ce recueil, se ressemblent tous sur, effectivement, il y a en filigrane, le Federico Garcia Lorca, hein, qui était originaire, donc pas bien loin de là, de la région de Grenade, et qui passait ses vacances dans cet endroit. On était à quelques, on a mangé d'ailleurs dans l'hôtel où il était. Voilà. Et Federico Garcia Lorca a dit cette phrase merveilleuse: je suis frère de tous et j'exècre l'homme qui se sacrifie pour une idée nationaliste abstraite. Voilà. C'est à partir de là que j'ai construit donc El Barranco de la Sangre. Ay Federico, nous t'avions endormi dans l'allégresse d'un peuple libéré de la patience du vent. Federico, nous t'avons honoré à portée de lune, dans le galop du temps gitane qui épuisait notre jeunesse. Et à Grenade, Federico, tes yeux me fixent, ourlés du noir pressentiment qui accuse, quand tu donnes le bras de l'affection à Constantin Ruiz Carnero. Federico, je tiens ma fille par la taille à l'Alhambra, et toi tu m'en lances de tes poèmes incrustés comme des échardes. Federico, Manuel Garnacho, l'architecte fidèle, voyager avec le livre rouge de 100 cahiers de tes œuvres complètes, interdit alors, mais que tout Espagnol lisait. Et ce n'est pas le moindre de tes paradoxes, Federico. Et le sang andalou de ses ancêtres irrigue ma fille, et par elle je m'approche de toi. Tu tiens ton rôle dans les signes de la Sierra Nevada, dans les villages blancs, miroirs de ta langue, dans la nuit chaude qui nous recouvre de l'obscure racine du cri, d'un crime à Grenade. Oh Federico, les mythes grecs charrient le sang des vies détruites dans la démesure du temps, et le tranchant des pierres jeté aux gitanes, qui s'abritèrent de l'horreur dans l'Alpujarra, avant qu'Aranda, le franc-maçon, fasse signer à moi le roi Charles III l'édit qui les tolère dans l'errance. Et le chant profond est né, Federico, que ta langue propage dans les couloirs d'air du monde et en ravale le feu. C'est revêtu de sa puissance que je viens à la rencontre de l'avenir intime de la terre andalouse. Il règne ici une sérénité rougissante qui déborde les jours et des nuits de cendres chaudes qui apaisent l'histoire. Et ce chant qui mord les entrailles, venu des synagogues, des mosquées et des indo-européens, ce sang gitane allonge la vie et abolit la honte dans un subtil ressassement du cri. Oh Federico, le sang est plus fort que nous et l'honneur gitan est sauf quand on rapporte du monde la fatalité de l'arrêt de ta parole dans ta poitrine hémorragique. Dans le sillon d'Isabelle, la bien nommée, nous parcourons ta montagne, radieux dans la résurgence de la romance de sa mère, enfuie avant que ne s'embrasent les villages dans un déluge de mitraille, et la terre exhale l'haleine des parents unis dans la fosse commune du cimetière d'Almejir.
Oui, il faut rappeler que Federico Garcia Lorca, tu peux rappeler sa vie.
Alors, il a été fusillé en 1936, au moment d'entrée, je veux dire, en juillet 1936, donc les troupes de nationalistes, donc les troupes d'autres rebelles de Franco, débarquent du Maroc et débarquent évidemment en Andalousie. Une des premières villes qui est envahie, c'est Grenade. Bon. À Grenade, qui était la ville de Lorca, Lorca qui était un peu suspect, plusieurs titres, s'était réfugié à Grenade parce qu'il connaissait bien des phalangistes, qui étaient des amis intimes et puissants. Malheureusement, dans la précipitation de ce qui s'est passé à cette époque-là, il a été immédiatement arrêté et il a été immédiatement fusillé. Il y a actuellement toute une polémique sur le fait qu'on sait à peu près où il est enterré, et il y a une polémique qui est la suivante: est-ce qu'il faut déterrer Federico Garcia pour lui donner une tombe ailleurs et un lieu de recueillement ailleurs, ou est-ce qu'il faut le laisser là où il est et faire de ce lieu un lieu de mémoire? Il semble que la deuxième soit celle qui va être retenue. Enfin, il y avait une polémique là les dernières années. Moi, je viens d'avoir acheté le journal tous les jours pour voir où en était. C'est un juge qui a instruit un petit peu cette affaire-là. Voilà. Dans ce que j'ai lu, je fais référence à des choses vraies, c'est-à-dire les gens dont je parle, Rousselot, qui a été un petit peu mon parrain en poésie, celui qui m'a dit faut publier, alors que bon, moi je me demandais, il y a toujours une part de doute très importante, me disait tu as besoin de nommer les lieux réels, de nommer les gens réellement, etc. Et j'ai toujours fait ça, même dans Toulouse au Meilleurament, je nomme les poètes, par exemple, de Toulouse, hein, tous les poètes de Toulouse, etc. Michel Cozem qui dit, oh, il est bien gentil, Christian, il y voit toujours, il y a de l'angélisme chez lui. Mais non, mais j'ai besoin d'ancrer. Ah, je m'éloigne en définitive peu de la réalité. Et les personnages dont je parle, c'est des personnages exacts. Je parle de Manuel Garnacho, qui a été ici un des rue du Thor, quand le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol était rue du Thor. Manuel Garnacho était celui qui s'occupait des jeunesses socialistes de l'époque et un petit peu de toutes les actions clandestines en Espagne, et qui rayonnait quand même aussi sur le rassemblement de tout ce mouvement en Europe. Ouais.
Nous allons faire une petite pause musicale, hein, et puis nous reprenons notre dialogue et la lecture de ton œuvre, Christian. Recueil de poèmes publié aux éditions Encre Vive, El Barranco de la Sangre, suivi de l'Andrarón, sur l'Andalousie, et nous évoquions la question du lieu comme matrice de l'invention d'une écriture. Et alors, je voudrais, moi-même, en fonction de ce que j'écris et de ce qui peut être ma source d'inspiration, d'essayer de te dire quelque chose, c'est que lorsque... Il ne s'agit pas, à mon sens, d'une opposition entre le cosmopolitisme et le lieu précis. Le cosmopolitisme, c'est d'ailleurs quelque chose dont les Juifs furent accusés au moment de la naissance de l'antisémitisme en Europe à la fin du XIXe siècle. Donc je ne me situe pas dans le cosmopolitisme. Si j'aime les banlieues désolées des grandes villes, ou le film de Marguerite Duras, Le Camion, c'est pas par cosmopolitisme, mais c'est parce qu'il y a une... qui disait que les carrefours de Boston, peut-être, sont les cathédrales modernes, ou alors les halls d'aéroports. Il y a quelque chose comme ça, c'est appeler cela les cathédrales modernes, c'est indiquer un lieu d'où peut s'élever l'invocation. Hein. Et... Si tu permets, je voudrais...
Dans les lieux, il y a aussi l'exil, c'est-à-dire que les lieux d'exil sont des lieux qu'on s'approprie aussi. Il y a l'appropriation des lieux.
Comme toi, tu t'appropries les lieux
de... Et par l'écriture, par la parole, on s'approprie.
C'est par la parole, c'est pas le lieu...
Oui.
Puisque tu t'appropries un lieu, tu es en Andalousie, mais tu n'es pas andalou, même si ta femme a tes origines andalouses. Et alors, ce que je voulais dire, mais alors là, c'est une réflexion théologique sur la question du lieu. Dans le judaïsme, le mot lieu, makom, est un des noms de Dieu. Hein? Et nous disons dans la Kabbale hébraïque que Dieu est le lieu du monde et que le monde n'est pas le lieu de Dieu. Et ici, on pourrait relire tout le travail que Jordi Blanc a fait en commentaire de Jean Jaurès. Oui. Sa méditation sur la substance, où il cite en correspondance avec ces textes de la Kabbale hébraïque les œuvres de Newton, où l'espace est appelé sensorium dei, la sensibilité de Dieu. Hein. Et donc il y aurait toute cette dimension, peut-être, que nous pourrions évoquer ensemble, et qui fait que pour moi, ce n'est pas le lieu précis, mais peut-être une pensée divine du lieu qui est la source de l'écriture. Voilà. Donc c'était une petite évocation sur le dialogue qui nous lie, et je voudrais revenir à ton écriture à toi, inspirée par des lieux-paroles, on peut dire, hein, de toute façon, puisqu'on s'est mis un peu d'accord là-dessus. Donc il y a cet horizon d'amitié, de sentiers connus, de terres qui sont nommées, et puis une plongée dans l'inconnu. Cet inconnu où se révèle, à la faveur de mots en fusion, il y a une incandescence dans ton écriture, et une combinée d'une incandescence et d'une tranquillité des paysages, avec une violence souterraine du sang, puisqu'il est beaucoup question de sang, enfin, bien sûr à propos de Federico Garcia Lorca, mais aussi dans d'autres œuvres d'autres de tes œuvres où la violence de l'histoire humaine affleure dans la tranquillité des paysages et n'est pas le contraire de la tranquillité des paysages. Il y a comme une proximité de la mort, des guerres anciennes, et ta poésie s'élève de ce paradoxe. Ta poésie est une poésie de vie, comme toute grande poésie, et elle surgit de ce paradoxe-là. Voilà comment je te dis, Christian.
Oui, je suis d'accord avec ta définition du lieu. Le lieu, c'est aussi c'est la notion à transcender. Le lieu reste un lieu symbolique. Tu parles de la Bible, par exemple. Le lieu est important. C'est à un moment précis que le mont Sinaï, où est-ce que Moïse, mais en même temps, ce lieu-là devient en définitive un lieu universel et devient un lieu symbolique. Et la poésie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une poésie réussie à partir d'un particularisme très très pointu n'a de sens, et ce particularisme n'a de sens que à partir du moment où il s'inscrit dans l'universel et où, en dépeignant quelque chose au contraire très 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 précis, on dépasse complètement cette précision pour arriver à l'universel et à quelque chose qui peut concerner l'ensemble de l'humanité. Sinon, on n'écrit pas pour un clocher, quoi. Je veux dire. Donc je suis entièrement d'accord sur le lieu. C'est à partir quand même de ce lieu-là que l'on sent peut-être aussi toute l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, malheureusement, même de ce que j'écris sur Odiemi, Krastibi, sur la Bretagne, on sent aussi beaucoup de violence. Dans toutes les villes dont je parle, il y a les combats avec les Anglais, on sent là aussi ce qui s'est passé, l'histoire. L'histoire n'est pas effaçable, je dirais qu'on la ressent tout le temps et elle l'imprègne, qu'on le veuille ou non, elle l'imprègne toujours le lieu, et le lieu est quand même un petit peu la résultante de ce qui s'est passé avant nous. On ne peut pas, par exemple, nous on vit à Toulouse, Toulouse, on ne peut pas gommer l'histoire de Toulouse. Il y a eu toute l'histoire de Toulouse fait qu'il y a une mentalité particulière, qu'il y a une culture particulière, qui s'inscrit justement dans une culture universelle, et qu'il y a peut-être des choses à dire dans cette culture universelle. Hein. En particulier, on parle maintenant du Paradj, qui revient, hein, donc accueillir l'étranger comme un citoyen à part entière du simple fait qu'il arrive dans la ville me semble être quelque chose qui est intrinsèquement et irrévocablement lié quand même à l'âme toulousaine.
Alors on peut relier ce que tu viens de dire à quelque chose que j'éprouve de l'intérieur des travaux historiques que j'ai fait sur l'histoire juive, c'est que Toulouse a été le lieu du sauvetage des Juifs. À l'époque de l'Inquisition, en Espagne ou au Portugal, les filières d'évasion s'organisaient à Toulouse. Et à l'époque du nazisme, pour les Juifs qui avaient pu, qui se trouvaient à l'ouest de l'Europe, en France, il était possible de passer par Toulouse, même si la frontière était complètement surveillée. Mais c'était par Toulouse que les filières d'évasion s'organisaient dans l'autre sens qu'au XVIe siècle, XVIe, XVIIe. Et donc on peut dire que Toulouse, d'une certaine façon, abolit les Pyrénées. Les Pyrénées ne sont plus une frontière parce qu'il y a Toulouse.
Hein? Oui, tu es entièrement d'accord avec ça. Mmh. Et la voix du cardinal Saliège aussi, qui reste quand même une des grandes voix qui a osé dire quelque chose, s'insurger à cette époque-là.
Alors, je voudrais t'interroger dans ton recueil El Barranco de la Sangre sur un terme qui est propre à Federico García Lorca. C'est la question, c'est le duende. Je lis juste le paragraphe qui se trouve page 5 de ton recueil. C'est le dernier paragraphe. Ils savent depuis longtemps que les gitans de Lorca ont franchi les frontières de la peur universelle, qui sont partis hanter d'autres peuples, de leur allégresse interdite, oxygénant la parole par les brèches obstinées de leur passage, apportant le duende pour exorciser leur terreur séculaire. Et si on peut dire un mot sur le duende, Christian?
Oui. Alors, le duende, Lorca en parle très 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 bien, c'est quelque chose qui est quasiment indéfinissable, il faut le ressentir, hein. Mais il fait partie de l'authentification, je dirais, de l'âme. Justement de cette âme andalouse, gitane, qui ressent à la fois ce que tu disais, c'est-à-dire des gens qui sont aussi en exil, mais qui sont en exil non seulement de la terre, mais peut-être aussi en exil d'une certaine société. Je parle de d'Aranda, le ministre franc-maçon qui a donné un statut à ces populations nomades, j'en parle tout à fait au début, et le duende, c'est ce qui va le plus caractériser, je dirais, la quintessence de cette âme andalouse, qui traduit à la fois une espèce de douleur, qui est la douleur d'une perte, il y a une déperdition quelque part, et en même temps une terrible force, parce que cette douleur aussi est une douleur qui contient sa part de combat et donc sa part d'espérance. Voilà. Ça, on ne peut un bon flamenco est quelque chose qui est quasiment inintelligible si l'on n'a pas ressenti le duende. C'est-à-dire à quel moment arrive ce qu'on appelle el duende.
Parce que tu écris le duende exorcise la terreur séculaire.
Oui.
Alors le duende est à la fois un combat et il exorcise la terreur.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est grâce à ça, c'est grâce à ces chants, c'est grâce à cette extériorisation d'une souffrance, mais d'un art, d'une culture et d'un génie que les gitans vont pouvoir s'afficher au monde comme un peuple en marche et une culture authentique.
Voilà. Alors, si tu permets, je vais lire un texte, un tout petit texte de Federico Garcia Lorca sur le duende. C'est dans un petit recueil, Théorie et jeu du duende, avec une illustration la traduction de Sophie et Carlos Pradal. Et c'est paru aux éditions Sable.
Ça a été repris dans des petites éditions de poche aussi.
Il dit, Lorca dit, le duende est un pouvoir et non un fer. C'est une lutte et non une pensée. J'ai entendu un vieux maître guitariste affirmer, le duende n'est pas dans la gorge, le duende monte en dedans, depuis la plante des pieds. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de moyens, mais de véritable style de vie, c'est-à-dire de sang, c'est-à-dire de très vieille culture, de création active.
Voilà, mais oui, c'est exactement ça.
Christian, je crois que notre émission arrive vers sa fin. Je voudrais rappeler pour nos amis auditeurs et auditrices, nous n'avons pas eu le temps d'en parler, mais peut-être une prochaine émission, j'espère, de Christian Saint-Paul aux éditions Encre Vive, J'ai les ailes de l'aigle blanc. De Christian Saint-Paul, toujours chez Encre Vive, El Barranco de la Sangre, et aux éditions Carder, si tu veux bien me rappeler.
J'occuperai l'été.
Et ton émission de radio, Christian?
Alors, ça s'appelle Les Poètes, et c'est le jeudi à partir de 20h jusqu'à 21h.
Voilà.
Sur Radio Occitanie, 98,3 MHz, et que l'on peut également écouter sur le site qui est un prolongement de l'émission, qui s'appelle lespoètes.fr.
Voilà, cher Christian, je te remercie d'être venu sur Radio Collège. Je te dis à bientôt. D'ailleurs, on doit se retrouver sur Radio Occitanie bientôt ensemble. Et je vous dis, chers amis auditrices, auditeurs, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine pour une nouvelle page ouverte.